va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des Capulet.
Quand je vois des bandes qui trafiquent de la drogue dans les hauts immeubles, il faut nettoyer.
Mais au fond, je me suis dit, peut-être pendant un certain temps, si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité. On a fait reculer le chômage. Ça n'a pas eu un effet direct sur l'insécurité.
En ce qui concerne le problème de l'emprisonnement des mineurs, l'emprisonnement lui-même s'avère très souvent un mal plutôt qu'un remède. Il est traité comme délinquant. Et par là même, il se sent délinquant. Il devient délinquant.
Si tu joues aux policiers, ils joueront aux bandits. Si tu joues au bon Dieu, ils joueront au diable. Si tu joues au geôlier, ils joueront aux prisonniers. Si tu es toi-même, ils seront bien endettés.
Bonjour à toutes et à tous. Wakadi, on a quelque chose à dire, c'est parti. On est ensemble pour une demi-heure d'émission autour des sujets qui sont au cœur du débat public. Wakadi, c'est tous les lundis à 5h30 et les vendredis à 10h30 sur Radio Clapaz 93.5. Alors ça y est, la campagne officielle a démarré, certains sortent des drapeaux tricolores à leur balcon, mais pendant ce temps-là, l'ordre continue à régner. Il y a quelques semaines, on a accueilli un membre du comité de soutien de Celle-Neuve, un comité de soutien aux sans-papiers. Depuis, il y a une bonne nouvelle, c'est que Madame El Khanouni a obtenu une carte de séjour d'un an. Mais pour autant, la situation ne s'améliore pas vraiment. De nouvelles situations se sont révélées sur Montpellier, les expulsions continuent, on arrête des grands-pères sans-papiers, on place des directrices d'école en garde à vue. C'est vrai que l'on vit vraiment dans un beau pays, moi je trouve. Résister doit toujours se conjuguer au présent, disait Lucie Aubrac. Aujourd'hui encore, nous vous proposons une rencontre avec quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui résiste aussi à sa façon. Il s'agit de Stéphane Ortega, militant à la coordination des groupes anarchistes. Stéphane Ortega, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes postier, mais pas du tout candidat à la présidentielle, je crois.
Non, c'est pas prévu.
Par contre, vous militez activement sur cette question des sans-papiers et vous allez nous en dire un peu plus tout à l'heure. Je dis bonjour à mes petits camarades. Salut Manu.
Salut.
Salut Jean-Jacques.
Salut Guillaume.
Et salut Marco.
Salut Guillaume.
Ça va mieux tes dents?
Non, pas encore.
Non, pas encore.
La prochaine fois, la semaine prochaine.
D'accord. En tout cas, on est vraiment très heureux de vous accueillir dans cette émission et on vous rappelle que vous pouvez réagir, demander des infos, des précisions, protester ou tout simplement saluer Marco qui a pas beaucoup d'amis. Marco, en nous écrivant, donc wakadi@free.fr. Merci pour lui.
Je cherche des amis.
Tous les deuxièmes et quatrièmes lundis du mois à 17h30 sur Radio Clapaz 93.5.
Alors Manu, aujourd'hui, pour ton coup de gueule, tu nous amènes en Pologne, il paraît.
Ouais. Comme on ne peut pas parler de la candidature, les candidatures à la présidentielle française, je vous amène en Pologne, mais avant, j'aimerais quand même qu'on cite, on fait chier, on va le dire, à faire un site internet où vous pouvez trouver les émissions, et tu l'annonces pas, en fait.
Mais moi, je pensais l'annoncer à la fin, mais annonce-le au début. Ouais.
Non.
C'est toi qui l'as fait, alors
on part en Pologne.
Bah, c'est comme ça, au moins tout le monde va être obligé d'écouter jusqu'à la fin pour avoir
voilà,
la résultat.
Voilà, mais ils écouteront parce que c'est quand même intéressant. Donc en Pologne, ils ont sorti une nouvelle loi qui est une loi sur la lustration. C'est assez drôle comme terme. Mais la loi, elle est pas drôle du tout parce qu'elle oblige toutes les personnes à clarifier leur rôle à l'époque communiste. En fait, sont concernées à peu près 700 000 personnes. Ça va des ministres aux professeurs d'université et aux écoles. Et en fait, ils doivent clarifier leur position par écrit à leur supérieur hiérarchique concernant le rôle qu'ils ont pu jouer sous le régime communiste et déclarer s'ils ont contribué à aider le régime avec la police secrète, etc. ou pas. Donc en fait, s'ils déclarent que oui, ils ont aidé le régime communiste, ben ils seront virés. S'ils mentent, ils seront virés. Et s'ils n'ont pas aidé, ben ça ira.
Et l'illustration, je ne comprends pas bien le terme.
Écoute, c'est la loi s'appelle comme ça, c'est la loi sur la lustration. Alors après,
comment on dit en polonais lustration ?
Je ne sais pas, je sais le dire en serbo-croate, mais en polonais, je ne sais pas.
Donc voilà. C'est une forme de, la lustration, c'est vraiment, comment dire ça, une sorte de censure fasciste, c'est plutôt ça le terme exact ?
C'est de l'épuration.
Ouais, voilà, la lustration c'est l'épuration en fait.
C'est de l'épuration, c'est de la... Mais c'est assez surprenant, quoi. Enfin, c'est assez surprenant non, pour quand on connaît le président polonais... On n'est pas forcément surpris par ce type de loi. Mais...
Ou son frère jumeau, je crois, hein, qui est le maire
tu
de...
Tu parles de Nicolas ou...
Non.
Ah,
Non, c'est ça, c'est dans cette fameuse famille où il y a le maire de Varsovie et son frère jumeau, c'est le président de la Pologne.
C'est deux jumeaux, oui.
Voilà. Ils sont forts. Bon, mais en tout cas, ils sont jumeaux, mais ils sont pas très sympas, quoi.
Non.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Alors, on retrouve Stéphane Ortega. Stéphane Ortega, on vous a fait venir donc pour nous parler de cette question des sans-papiers. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de c'est quoi être un sans-papier par rapport à être un clandestin ou
C'est pas complètement différent en fait. L'idée d'être si le terme sans-papier est arrivé, c'est tout simplement parce que il y a eu très régulièrement des modifications de législatives sur le droit à l'entrée et au séjour des étrangers, et que un certain nombre de personnes qui étaient préexistantes sur le territoire avec une situation régulière, du fait que les termes de la loi ont changé, un certain nombre de personnes se sont retrouvées du jour au lendemain avec des papiers non renouvelés. Puisque faut savoir, notamment pour aujourd'hui, qu'au maximum on obtient la possibilité de rester sur le territoire sur une période d'un an, que c'est renouvelable plusieurs fois avant d'avoir un titre de séjour qui puisse arriver à 10 ans. Donc effectivement, au bout de l'année, quand on se retrouve à retourner donc en préfecture pour obtenir à nouveau un titre de séjour, ben, si les termes de la loi ont changé, on se retrouve dans l'incapacité de se faire renouveler son titre, et à ce titre-là, on se retrouve sans papier. Donc c'est pour ça que ce terme est arrivé. En même temps, après, la réalité vécue par les individus quand ils sont sans papier ou quand ils sont clandestins, c'est la même. Hein. C'est avoir peur, effectivement, à chaque coin de rue, quand on sort d'un contrôle d'identité, avoir toutes les difficultés du monde, parce qu'en général, la plupart des gens travaillent malgré tout, hein, mais c'est donc une peur un peu incessante quand on emmène ses gamins à l'école, quand on va au boulot, quand on va chercher le pain, et ça, cette réalité-là... elle est vécue à peu près par l'ensemble des personnes qui sont sans papier, qu'on les appelle sans papier ou clandestins, c'est la même vie, quoi. C'est cette peur. Et puis ensuite, c'est aussi des mêmes réalités de vécu en termes d'absence de droits, que ce soit dans le champ de la santé, dans le champ du travail, dans le champ de l'éducation, etc. C'est la même situation de non-droit pour tout le monde, quoi.
Les papiers, on dit sans papier, alors c'est quoi quels sont les papiers qui peuvent autoriser un étranger à résider en France pour qu'on soit tous d'accord avec, qu'on soit au même niveau d'information? Parce qu'on entend parler du statut de réfugié politique, de carte de séjour, de demande de nationalité, qu'est-ce que c'est un peu?
Le papier essentiel, c'est le titre de séjour. Après, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir ce titre de séjour. On peut effectivement l'avoir au titre du fait qu'on a un réfugié de un statut de réfugié politique, ou après une demande à l'OFPRA, qui est l'office donc qui s'occupe effectivement de viser et de regarder la réalité ou non de la demande d'asile. Donc voilà, il y a plusieurs raisons qui conduisent à faire que la préfecture donne un titre de séjour à une personne étrangère. Mais au final, de toute façon, c'est un titre de séjour qui donne la régularité de séjour sur le territoire, sauf à un autre moment de passer à une autre étape qui est une demande de naturalisation. Mais ce qu'il a est encore autre chose, quoi. C'est d'autres documents, c'est une autre démarche, c'est encore autre chose.
Le temps, les cartes de séjour, elles peuvent durer combien de temps?
C'est-à-dire le nombre de fois où elles sont renouvelées ou le temps pour lequel on obtient un séjour?
En fait, les deux questions. Combien de fois elles peuvent être renouvelées et combien de temps on reste en France?
Eh ben, un titre de séjour, ça peut être 3 mois. C'est assez fréquent même. Hein. Il y a de très nombreux exemples où on obtient... par exemple, si on fait une demande de statut de réfugié, on peut obtenir un titre de séjour de 3 mois, le temps que le dossier soit étudié par l'OFPRA. Le titre de séjour peut être d'un an. C'est le cas effectivement pour Fatima, donc dans le comité de soutien de Celle-Neuve, hein, où elle a eu un premier titre de séjour donc là de 1 an. Et au bout d'un an, il faut obtenir un renouvellement du titre de séjour. Voilà, donc grosso modo, sur un premier titre, ça peut aller grosso modo de 3 mois à 1 an. C'est à peu près cette variable. Et si je me trompe pas, je crois qu'on peut, c'est renouvelable 2 fois. Et à partir du moment où on a eu 3 titres de séjour d'un an, on peut effectivement faire une demande sur un titre qui est plus long, qui est un titre de 10 ans. Mais avec de plus en plus de difficultés pour l'obtenir aujourd'hui.
Oui, parce que si mes connaissances sont bonnes, c'est vrai que le titre de 10 ans va aussi avec le RMI, etc. Et du coup, il y a une plus grande frilosité à accorder ce type de titre parce que ça coûterait plus cher à la collectivité. Il y a peu de titres de séjour qui sont accordés sur des durées de 10 ans alors que les gens sont là depuis des lustres, quoi. Enfin, des fois, ça paraît un petit peu un petit peu fou dans, quand on lit un petit peu la presse sur ce type de collectif auquel vous devez participer sûrement. Vous voyez des gens qui sont là depuis 10 ans et qui là obtiennent une carte de séjour de 3 mois, d'un an, alors que ça fait 10 ans qu'ils sont là. Enfin, ils auraient une légitimité entière à avoir une carte de séjour du coup, ou même un titre de séjour qui soit bien plus long que ça. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être aussi des enjeux économiques derrière, etc. Enfin, des enjeux. Quels sont-ils?
Non, mais j'allais rajouter l'enjeu politique de votre action.
Oui, il y a plusieurs choses. Hein. Enfin, déjà par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est vrai que très clairement, on installe des personnes qui sont présentes sur le territoire depuis plus ou moins longtemps, effectivement, en fonction des individus. On les installe dans une sorte de précarité pérenne. C'est la seule chose qui est pérenne pour eux, à la limite, c'est ça, c'est la précarité. Et à ce titre-là, le dernier texte de loi sur l'immigration, hein, qui s'appelait le CESEDA, met en place, avec le concept qu'a développé l'ancien ministre de l'Intérieur, le concept d'immigration choisie, qui est un peu une grande fumisterie, parce que grosso modo, l'idée principale, c'est que l'essentiel de l'immigration est une immigration de travail, hein, en Europe. Et dans bien d'autres endroits aussi, d'ailleurs. Et grosso modo, l'idée, c'est de faire venir entre ce qu'ils appellent les talents, c'est-à-dire en clair des individus qui peuvent amener de la forte valeur ajoutée à l'économie française dans des domaines de pointe, notamment la recherche, et à eux de leur délivrer des titres courts aussi, hein, 3 ans, 5 ans, et qu'ensuite, après on verra. Hein. Mais dans un autre temps, il y a aussi toute une migration de travail qui, elle, va sur des secteurs économiques qui ne sont pas effectivement dits de pointe, mais qui sont assez essentiels malgré tout sur la survie de ces pôles économiques. C'est le cas du bâtiment, c'est le cas de du textile, etc. Et ces personnes-là, par contre, pour elles, dans le dernier texte, a été enlevée la notion que quand on est présent 10 ans sur le territoire, et qu'on le fait valoir, hein. Les 10 ans, ça veut dire qu'il faut donner des preuves, alors qu'on est, entre guillemets, clandestin, il faut donner les preuves de son séjour pendant 10 ans. Donc si on arrivait jusqu'à présent à faire cette preuve-là, on pouvait effectivement obtenir un titre de séjour, donc d'un an, hein. Donc d'être régularisé sur une période d'un an. Avec la loi CESEDA, cette formule-là a été supprimée, ce qui a quand même comme incidence que les gens peuvent se retrouver clandestins, puisque c'est le terme que les gouvernements utilisent, clandestins à vie. Du coup, les personnes qui sont pas sur de la forte valeur ajoutée au niveau économique, on considère qu'ils sont expulsables à tout moment, tout en sachant pertinemment par ailleurs qu'ils sont là, hein. Mais on leur donne évidemment aucun titre de séjour qui leur permettrait d'avoir le moindre droit. Ce qui garantit une main-d'œuvre à bon marché sur le territoire. D'une certaine façon, c'est une façon de délocaliser en France une partie de l'activité économique, donc de faire baisser les coûts. Il y a cette dimension qui est importante.
C'était l'enjeu politique de votre action.
Oui, sur la question aussi que tu posais, pour nous, on se reconnaît pas dans l'idée de frontière qui sépare les individus. Ça, c'est un petit peu, je dirais, le cadre philosophique dans lequel on s'inscrit. Et à partir de là, il est encore moins acceptable pour nous qu'il y ait des individus qui puissent vivre ici dans des situations de non-droit absolu. Pour nous, il n'y a aucune raison que des gens qui travaillent éventuellement à côté de vous, que vous pouvez voir tous les matins, puissent crever parce qu'ils n'ont pas accès à la santé. Hein. Il y a eu une remise en cause, notamment de l'AME, qui était un dispositif permettant malgré tout, à minima, d'offrir une santé.
L'AME, c'est l'aide médicale d'État.
Ouais. L'enjeu, c'est ça, c'est effectivement que sur un même territoire, on a des individus qui sont coupés de tout droit, et pour nous, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable.
Alors là, on voit que il y a eu des luttes qui ont. Cette question des sans-papiers est revenue parce qu'on en avait parlé il y a maintenant quelques années. En fait, ça s'est jamais arrêté. Hein. Les luttes autour de la question des sans-papiers, elle est revenue sous l'angle un peu des enfants scolarisés, donc plutôt des enfants de sans-papiers, on va dire. Donc là, on parlait tout à l'heure du comité de soutien de Celle-Neuve. Sur Montpellier, il y a des Kurdes aussi qui sont pour revenir un peu sur le local et un peu sur le concret, on va dire. Il y a des Kurdes qui sont en grève de la faim, depuis maintenant pas mal de jours, qui se mettent en danger. Quelle est leur situation?
Ben eux, la situation est un peu plus particulière, puisque elle a trait aussi à une situation politique à partir du pays d'origine, hein, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des personnes qui sont sans papier. Pour eux, ils sont dans une situation qui est encore qui est réellement le paroxysme de l'hypocrisie, parce que ils se retrouvent dans une situation où la préfecture, il y a maintenant un certain nombre d'années, suite d'ailleurs à une grève de la faim, de Kurdes à Montpellier, mais qui avait eu lieu aussi dans d'autres villes de France. Donc là, l'État français s'était engagé à ne pas expulser les personnes qui étaient kurdes, parce qu'effectivement, elles reconnaissaient que en les renvoyant en Turquie, il y avait un certain nombre de risques pour elles, effectivement, d'être incarcérées ou d'être malmenées physiquement, etc. Donc la préfecture avait déclaré effectivement que c'était engagé à ne pas les expulser. Pour autant, à aucun moment, ils n'ont pu être régularisés, c'est-à-dire avoir un titre de séjour normal et donc une vie normale. Donc c'était offrir finalement à ces personnes-là une situation de clandestin permanent, avec aucun espoir de pouvoir être régularisé, donc ben voilà, de pouvoir aller travailler normalement comme tout le monde, de pouvoir, si un jour on a des problèmes de santé, parce que ben, c'est ce qui arrive aussi à chaque individu, pouvoir avoir être un minimum pris en charge normalement d'un point de vue de la santé, et pas être dans des situations totalement précarisées. Donc voilà, c'est des gens qui se retrouvent dans cette situation de non expulsable, d'une certaine façon, en tout cas c'était l'engagement qu'avait pris la préfecture, et non régularisable, puisque ça fait la troisième grève de la faim qu'il y a à Montpellier, hein, et on en est là. Et la préfecture, ma foi, à ce jour, a toujours pas tenté de donner une réponse à ces individus qui sont dans des réelles difficultés.
Hein. Une question peut-être sur leur statut, pourquoi ils n'ont pas le statut de réfugié politique alors s'il y a un danger avéré dans leur pays d'origine?
Non, alors là, on pourrait passer beaucoup de temps parce que l'OFPRA n'est pas un organisme qui est déconnecté des enjeux du gouvernement à un moment donné. Et il est vrai que l'enjeu dans les années 90, en France, mais aussi dans beaucoup de pays européens, ça a été de faire réduire de façon substantielle le nombre de personnes à qui on donnait le statut de réfugié. J'ai plus les chiffres en tête parce que maintenant c'est un petit peu ancien, mais on a dû passer en termes d'échelle de l'ordre de quelque chose de l'ordre de 70 000 dossiers d'accueil de réfugiés politiques en moyenne dans les années 90 à quelque chose aujourd'hui qui doit être peut-être presque 10 fois moins.
Il y a un enjeu en fait, c'est-à-dire que sciemment le gouvernement français n'accordera pas ce statut-là à ces personnes d'origine kurde, parce que ça froisserait leur pays d'origine et les relations diplomatiques qu'ils peuvent avoir avec. Alors on parle beaucoup de l'intégration de l'Union européenne, de l'État turc, etc. Est-ce que ça peut être une des raisons d'éviter tout incident diplomatique et de pas considérer que ces gens-là seraient maltraités dans leur pays d'origine et donc ce pays d'origine ne respecterait pas certains droits de l'homme, etc.
C'est
aussi aller loin dans certaines choses.
Après, je suis pas au fait précisément du fait. On n'a pas été invité pour nous expliquer très clairement quelle était la position du gouvernement sur cette question.
La CGA n'est pas représentée.
Non, pas complètement. Mais oui, on peut effectivement imaginer ça. Enfin, on peut assez facilement imaginer effectivement que la raison d'État l'emporte sur la réalité que vivent ces personnes. Ce ne serait pas complètement la première fois que des gens se retrouveraient otages des relations entre deux pays, entre deux États. Après, j'ai pas de données concrètes sur cet élément-là, mais il est probable que ça joue. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les années 90, au niveau de la gestion donc de l'OFPRA, qui est l'organisme qui regarde les statuts de réfugiés, s'est mis en place la notion de pays sûr. Et effectivement, donc il y avait une classification qui était faite sur l'ensemble des pays de la planète, et on retrouvait dans les pays sûrs des choses totalement improbables. Bon, effectivement, la Turquie comme pays totalement sûr, bon, quand on connaît effectivement la réalité, elle est un petit peu plus complexe que ça, mais plein d'autres, le Maroc, pays totalement sûr d'un point de vue des droits de l'homme, bon, à l'époque de Hassan II, j'entends, en plus, à la limite, on pourrait croire qu'à l'époque de Mohamed VI, peut-être des choses ont changé, on pourrait l'imaginer. À l'époque de Hassan II, aujourd'hui, tout le monde sait bien que c'était plutôt la sûreté dans les prisons que la sûreté tout court, quoi.
Et alors là, ça veut dire juste que pour changer finalement les chiffres de l'immigration et notamment du nombre de personnes à qui on accorde l'asile politique, il suffit finalement de changer la liste des pays sûrs?
Oui, il suffit de changer les critères. C'est à peu près la même façon aussi sur le reste des personnes qui sont sans papier. On change les critères, on modifie un peu les chiffres. Ouais, c'est des curseurs effectivement sur lesquels ils ont joué.
Moi, je vous propose de faire une petite pause en écoutant une. Alors, c'est pas un témoignage direct, c'est une lecture de texte à partir d'un bouquin qui a été publié par la CIMAD qui s'appelle Votre voisin n'a pas de papier, qui est un recueil de paroles d'étrangers. Donc c'est un texte qui est lu par Cindy et qui reprend le témoignage donc d'une jeune Sénégalaise qui est arrivée en France à l'âge de 13 ans. Et donc c'est un extrait de ce témoignage-là.
« Je suis arrivée le 25 août 1990. J'avais 13 ans. Je suis venue voir ma tante. Je ne la connaissais pas. Je ne voulais même pas venir. On m'a dit que j'allais partir en France. Et c'est tout. Mes parents, ils croyaient que j'allais garder les enfants. Peut-être que j'allais aller à l'école ou qu'elle allait faire les papiers, les démarches, mais rien du tout. Dès le début, ça a été très dur. Dès que je suis arrivée, je me suis occupée des enfants et le ménage et le manger, le repassage et tout ça. Je me lève à 7h, j'emmène les enfants à l'école, je reviens, je fais le ménage, je fais à manger, je vais les chercher. C'est toute la journée. Je peux pas compter les heures. Tous les vêtements, je les lave à la main, pour toute la famille. Je sortais pas du tout, sauf pour emmener les enfants à l'école. Les papiers, moi je ne savais pas qu'il fallait faire les démarches. J'ai dit que je voulais faire mes papiers. Ma tante ne voulait pas. Malgré ça, je suis partie au consulat demander un passeport. Les papiers, en ce moment, ils sont au tribunal. Je veux avoir des papiers et partir de là-bas. J'en ai marre, mais je ne sais pas où aller ailleurs. Comme j'ai pas de papiers, je peux pas travailler. Je peux rien faire. C'est ça le problème. Quand j'ai fait la demande des papiers et qu'ils m'ont rejeté, là, je suis partie voir un avocat. Il m'a demandé de quitter là-bas. Je veux bien, mais je vais aller vivre où ? Si j'avais un endroit où aller vivre, ça fait longtemps que j'aurais quitté là-bas, même sans les papiers. Si j'ai des papiers, j'aimerais bien voir ma mère déjà. Ça fait 14 ans que je ne l'ai pas vue. Des fois, je l'appelle. En ce moment, elle est malade. J'aimerais bien aller la voir, mais malheureusement, je ne peux pas. Après, je sais pas, avoir une maison, travailler. Comme je n'ai pas fait d'études, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Peut-être faire une formation pour faire quelque chose, je sais pas. Vendeuse, j'aimerais bien.
Alors, après avoir écouté ce petit morceau, moi, j'ai envie de vous demander finalement les soutiens aux familles sans papier, c'est vrai que se cristallise beaucoup, ou du moins sur un plan médiatique au niveau des enfants. Et c'est vrai que d'un côté, ça a permis de percevoir ou d'essayer de percevoir ce que vivent ces gamins sur le territoire français quand ils sont dans ces conditions-là. Bon, là, je crois que la demoiselle, voilà, elle explique très bien, il n'y a rien à rajouter par rapport à ces conditions de vie. Est-ce que c'est un créneau pour mieux faire parler des sans-papiers? Alors, je dis un créneau, c'est pas un créneau publicitaire, mais est-ce que c'était quelque chose qui... est-ce que c'est quelque chose qu'il faut davantage médiatiser parce que c'est une entrée qui permet vraiment de montrer la vie de ces personnes-là?
Bah, par rapport à ça, la réponse va être un peu en demi-teinte, quoi. C'est-à-dire que, à mon sens, c'est le signe d'un échec ou d'un recul majeur. Pour essayer d'expliquer un peu le propos, on en est arrivé sur ces dernières années à tellement de restrictions dans les droits des étrangers et tellement de difficultés que plus personne ne se mobilise. Enfin, c'est au-delà de ça, on est arrivé à une situation où très peu de gens se mobilisaient autour des sans-papiers pour des raisons qui seraient assez longues à expliquer. Je rentrerai pas trop dans le détail, mais il y a eu une banalisation finalement quand même de thèses très droitières, hein, et l'arrivée de ce gouvernement donc en 2002, un peu sur le traumatisme de Le Pen au deuxième tour, on a un peu laissé, en tout cas les gens qui effectivement ont pensé qu'en votant Chirac on se sauverait du fascisme, finalement on oubliait le fait qu'on pouvait avoir des mesures complètement rétrogrades aussi sur ce terrain-là, faites par des gens qui ne sont pas estampillés Front National. Et on s'est retrouvé avec des gens qui ont complètement délégué toutes ces questions-là, qui ne s'y sont pas préoccupés, et avec finalement des mesures qui sont pas si, enfin, qui sont malgré tout pas si éloignées de ce que prenait le Front National. Et du coup, les sans-papiers se sont retrouvés sans soutien. Subissant une répression importante, et l'enjeu pour le pouvoir était de les enterrer, c'est-à-dire de les rendre absolument plus visibles, avec même des trucs assez forts en termes répressifs, hein. Et effectivement, à partir de là, les gens se sont habitués à ce qu'on dise dans les médias, et l'année prochaine il y aura deux fois plus d'expulsions que cette année, et puis l'année suivante il y aura deux fois plus d'expulsions que cette année. Et on a vu de moins en moins arriver dans les manchettes de presse ce que ça signifiait qu'une expulsion. Et là où finalement les choses ont rebondi, oui, c'est parce que la police ayant du chiffre à faire hein, aussi en termes d'expulsion, hein, ils sont aussi quelque part sur du mérite, hein, donc il faut absolument qu'ils fassent du chiffre. Donc la façon la plus facile de faire du chiffre, c'est d'arrêter des sans-papiers, hein. C'est une façon assez simple. Et du coup, on est arrivé donc à des méthodes policières tellement trash, je dirais, que quand les gens ont vu qu'on venait chercher les gamins à sortie de l'école encadrés par deux policiers, pour un certain nombre de gens qui avaient oublié ou qui voyaient pas physiquement ce que ça représentait une expulsion, d'un coup c'est devenu concret. Donc à partir de là, effectivement, des mobilisations ont eu lieu, et elles ont eu lieu sur ce terrain, avec des enseignants, des parents d'élèves, etc.
C'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience quand même du corps, enfin une prise de conscience, sûrement que cette prise de conscience existait déjà auparavant, mais le réseau Éducation Sans Frontières est quand même venu il y a pas si longtemps que ça, et on l'entend beaucoup, quoi. Donc c'est quelque chose qui, moi, il y a 10 ans, alors pas du réseau, hein, puisqu'il n'existait pas, mais on ne parlait pas tellement des enfants sur les expulsions. On parlait des personnes qui avaient refusé, qui s'étaient débattues dans l'avion, etc., mais de manière très sporadique, hein, mais on ne parlait pas des enfants, en fait. C'est vrai que c'était quelque chose, un sujet qui n'était pas traité.
Ben, disons qu'effectivement, à l'époque, on ne venait pas chercher les enfants à la sortie de l'école, en général. C'était assez exceptionnel.
Mais on expulsait quand même les enfants.
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui.
C'est juste que c'était moins visible.
Oui, et du coup, effectivement... le fait qu'il y ait par ailleurs des luttes de sans-papiers, les enfants étaient présents, hein. Il suffirait de re-regarder les images de Saint-Bernard en 96, c'est des familles entières, et les enjeux déjà de l'époque, c'est aussi le respect de la vie familiale, etc. Hein. Donc les enfants n'étaient pas évacués, mais c'est plus, si les enfants ont émergé, c'est plus parce que finalement, beaucoup de personnes se sont habituées au fait qu'on expulse les adultes sans que ça fasse bien grand cas. Ce qui est assez dramatique, je dirais, en termes de recul, d'être en capacité de comprendre la réalité que vivent des personnes et de vivre l'injustice profonde qui leur est faite, quoi. Donc c'est par ces reculs que finalement la question des enfants s'est posée. Je dirais presque que c'est le dernier élément à émouvoir pour les individus, sans que ça soit méchant, hein, mais parce que voilà, chacun a intégré ses reculs.
Il y a peut-être l'élément de proximité, parce que...
Bien sûr.
Parce que c'est peut-être parce qu'on les connaît, parce que c'est la question du quartier, c'est ça le...
Bien sûr, parce que ça rend les expulsions visibles. Alors qu'effectivement, le mouvement des sans-papiers avait été rendu invisible, notamment après 2002.
Et ça veut dire, là, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, ça veut dire un de vos objectifs, ça serait justement d'arriver à refaire émerger ce débat de façon globale et pas le laisser simplement au niveau de c'est parce que c'est mon voisin, c'est parce que c'est un enfant, qu'à ce moment-là, c'est difficile et c'est peut-être plus grave et c'est peut-être, justement, on est peut-être plus sur le côté émotionnel.
Oui, 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 effectivement, ses parents ont des enfants, enfin, pardon, l'inverse, ses enfants ont des parents, et effectivement, si on s'intéresse à ces gamins, on s'intéresse aussi aux parents qui vont avec, que souvent, ses parents sont des travailleurs sans papier. J'insiste sur cette notion, parce que l'essentiel de l'immigration, c'est une immigration de travail, et on a tendance à l'oublier. La plupart des gens sans papier travaillent, ils ont un emploi. Pas évidemment avec aucune protection, mais ils ont un emploi. Et effectivement, oui, il n'y a pas de justice à deux vitesses. Enfin, il n'y a pas une justice pour les enfants sur laquelle il faudrait absolument tenir, tout en ne l'ayant pas sur les adultes. Pour nous, il n'y a pas de pertinence à ça. Donc effectivement, c'est une question d'ensemble.
Eh bien, Stéphane Ortega, on est désolé de vous couper en plein vol parce que c'était intéressant. On n'a toujours pas fini, donc ça veut dire qu'il faudra peut-être faire même une troisième émission sur cette question-là. Alors, c'est une tradition, c'est vrai que c'est la première fois que vous venez ici. Donc, quand on entend cette musique, en général, qu'est-ce qu'on fait, Manu?
Eh bien, on va danser.
Ouais. Voilà, exactement. Donc, on sort du studio en dansant, on chausse tous un canotier.
Et on danse à la salsa. La samba.
Et la samba.
La samba, la samba. La samba,
ouais. Donc, on sort comme du studio.
Comme Marco est revenu, je pense que c'est lui qui l'a guidé une fois
tout de suite.
Pas mal. Ah, mais tu t'entraînais pas.
C'est vachement mieux que d'habitude. Hein.
J'étais en stage.
D'accord. Alors, Stéphane Ortega, merci.
Ben, merci
à tous et à toutes. On vous rappelle que vous pouvez nous écrire sur wakadi@free.fr. Et puis, Manu, peut-être tu peux nous donner
l'adresse du fameux site qui est toujours en construction. www.wakadi.free.fr.
Mais il est en construction, mais on a accès aux
émissions. Mais on a accès aux émissions précédentes. Ouais.
D'accord, mais nous on vous dit au revoir et surtout souvenez-vous qu'on commence d'abord à renoncer à l'impossible et ensuite à tout le reste. Alors nous on y croit, l'impossible est en cours. Au revoir.